Entretien avec Pierre Lemaître, janvier 2014.
Bonjour.
Bonjour.
Nous venons de vous écouter lire Au revoir là-haut, votre 7e roman, qui a été couronné de succès, tant public que critique, et obtenu de nombreux prix, dont le prix Goncourt. Depuis quelques années, vous vivez de votre plume. Pouvez-vous nous dire quel a été votre parcours d'écrivain ?
En vérité, c'est un parcours assez simple. J'ai commencé à écrire d'abord des romans policiers, des romans noirs. Et puis, comme beaucoup d'auteurs qui ont travaillé dans un certain genre, le roman historique, le roman sentimental, le roman policier, le roman encyclopédique, on a envie de changer de genre. Alors là, il se pose une vraie question. Donc en fait, pour l'instant, mon parcours a été plutôt linéaire. Et puis, d'un seul coup, il s'est posé une question de rupture. Qui était celui de changer de genre. En France, ça n'est pas quelque chose de très facile de changer de genre. C'est plus facile, je crois, dans d'autres pays, je pense aux pays anglo-saxons. Mais changer de genre est quelque chose de transgressif qui n'est pas toujours bien apprécié, compris ou repéré par les professionnels et surtout par le public. Et donc, c'est toujours un enjeu très important de changer de genre parce que ce que vous avez réussi à faire dans un genre, vous n'êtes pas forcément le mieux placé pour le réussir dans un autre. Donc, c'est toujours un pari un peu risqué, ambitieux et donc toujours bien excitant.
Comment expliquez-vous que votre roman ait une telle résonance auprès des lecteurs ?
C'est toujours bien difficile de savoir pourquoi un livre rencontre le public. C'est, je crois, vraiment la magie de la littérature. Alors, non pas que je veux mettre des guillemets à littérature ou des majuscules, mais enfin, il y a quelque chose de toujours assez mystérieux, parce que le même livre, 2 ans plus tôt, ne rencontre pas son public, 2 ans plus tard, le rencontre. Il y a là quelque chose qui défie un petit peu l'analyse, la compréhension. Alors, malgré tout, puisque vous me posez la question, je vais pas me défausser, je vais essayer d'avoir un peu de courage pour y répondre. Je crois qu'il y a peut-être au moins 3 éléments. Le premier élément, c'est cette guerre. Cet événement de la guerre de 14, elle a instillé la culture française d'une manière très forte. Le tissu mémoriel en France est très fort et je crois que le thème était en soi porteur. La deuxième chose, c'est la méthode de confection du roman qui vient du roman policier et qui, d'une certaine manière, rend le livre un peu intéressant dans la mesure où c'est une aventure, où on attend ce qui va se passer, où il y a des rebondissements. Et donc, il y a là peut-être un savoir-faire qui est, je dirais, plaisant pour le public. Et puis, la troisième chose, c'est, je crois, qu'il y a quelque chose d'authentique dans, me semble-t-il, la manière dont j'exprime les choses. Elles m'ont touché. Et il me semble que quand on a un petit peu de savoir-faire et qu'on est ému soi-même, eh bien, ce savoir-faire permet d'émouvoir les autres.
Vous êtes un très grand lecteur. Vous vous êtes nourri, je crois, de beaucoup de romans de l'époque sur la guerre, notamment Les Croix de Bois de Dorgelès, peut-être La Peur de Gabriel Chevallier ou d'autres. Quelles ont été vos autres sources d'inspiration, justement ?
Alors, les grands écrivains de la guerre, les grands écrivains combattants m'ont évidemment été très, très précieux. Gabriel Chevallier, Roland Dorgelès, Maurice Genevoix, puis les étrangers, Remarque, d'autres Français comme Céline, ou en tout cas la première partie du Voyage au bout de la nuit. Donc, tous ces romanciers français ou étrangers, principalement allemands, ont effectivement été une source d'inspiration. Mais très curieusement, c'est une source d'inspiration dont je me suis beaucoup méfié. Alors pour une raison qui est très simple, c'est que quand vous abordez un sujet aussi immense, aussi exorbitant que la guerre de 14, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser ou de craindre que vous serez influencé par ces gens de génie qui ont écrit admirablement Barbus, Chevallier. Que voulez-vous faire d'autre sur une guerre que ceux qui l'ont écrit magiquement parce qu'ils l'ont vécu ? Ils ont les deux qualités que vous n'avez pas, le génie et le passé. Donc au fond, le mieux, c'est de vous souvenir des textes, de les feuilleter avec distraction, mais de ne pas vous laisser influencer, faute de quoi, si vous regardez de trop près la littérature, vous n'écrivez plus parce que vous n'êtes que devant des maîtres.
Donc vous laissez travailler votre imaginaire.
Je laisse travailler une sorte de mémoire involontaire. J'essaie de me souvenir de l'impression que ça m'a fait. J'essaie de pas trop être dans le texte des autres et d'être plutôt dans la mémoire du texte. Et cette mémoire, elle me porte et j'essaie de retrouver des émotions de lecture plus que des lectures elles-mêmes.
La dimension sociale est importante dans Au revoir là-haut, dont vous avez dit que c'est un roman de l'après-guerre. Ce regard d'en bas vers le haut de la société, ce renversement de valeurs, les plus courageux devenant les plus négligés, est-il un moteur du récit ?
La stratification sociale du roman est effectivement importante. J'essaye de dresser, au-delà d'une histoire d'homme, de dresser une petite image, un petit panorama de ce qu'est cette France de l'immédiate après Première Guerre mondiale. La lutte des classes est portée quasiment à son acmé dans cette période-là. Aujourd'hui, la lutte des classes n'est plus forcément un concept opérant pour analyser le social, mais en 1920, il est encore assez opérant. On est à quelques encablures de la Révolution russe. Donc la stratification sociale compte beaucoup, et dans ce roman, j'essaye de faire en sorte que les personnages deviennent en quelque sorte la caisse de résonance des conflits sociaux de cette société, extraordinairement compliquée parce que ces strates sociales sont en quelque sorte chauffées à blanc par l'épuisement du pays après un effort de guerre comme on n'en avait quasiment pas connu auparavant. Donc on est dans une situation où les conflits sociaux, où les contrastes sociaux sont chauffés à blanc par les conditions historiques qui sont exceptionnelles.
Et le fait aussi que la société était extrêmement hiérarchisée, cloisonnée, et que les tranchées ont fait voisiner des gens qui n'avaient pas l'habitude de se côtoyer.
Bien évidemment, les grands événements traumatiques, comme les guerres, mais aussi les inondations, les tsunamis, les tremblements de terre, sont des événements qui provoquent des brassages sociaux extrêmement intenses et qui poussent à la rencontre des gens qui, sur l'échiquier social normal, ne se seraient jamais rencontrés. Alors évidemment, pour un romancier, c'est pain béni que d'avoir une occasion enfin de pouvoir mettre ensemble des gens qui ne vont pas ensemble naturellement, socialement, historiquement, mais que les circonstances peuvent pousser à cohabiter avec l'ensemble des conflits que ça suppose. Pour un romancier, c'est absolument idéal. C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de romanciers travaillent sur des événements traumatiques. C'est que d'une certaine manière, ils leur offrent là un tremplin qu'un événement normal ne peut pas offrir, à savoir un brassage social, le jeu des contrastes. Il faut vraiment des circonstances exceptionnelles. Dieu sait que cette Première Guerre mondiale a été une circonstance exceptionnelle.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des personnages féminins dans votre roman qui sont très importants et qui évoluent justement au cours du roman, alors qu'on imagine qu'un roman qui part en tout cas de la guerre est plutôt un environnement masculin?
Le livre est une histoire d'homme. C'était d'ailleurs un grand doute, parce que je viens du roman policier qui est une lecture de femmes. Le public du roman policier est un public féminin. Et donc, d'une certaine manière, mon public était un public féminin. Or, je me trouvais d'un seul coup devant un paradoxe, c'est que mon public étant statistiquement plutôt féminin, j'écrivais une histoire dans laquelle il n'y a pas beaucoup de femmes. Simplement, l'histoire était ainsi faite et je n'allais pas la tordre pour faire plaisir à un public imaginaire. Et donc, il y avait très peu de personnages féminins, si je puis me permettre de le dire ainsi, et j'espère que tout le monde entendra les guillemets que j'y mets. J'ai soigné ces personnages féminins parce que, comme ils étaient peu nombreux, je voulais qu'ils soient très signifiants. Alors, il y a trois personnages. Le premier est un personnage qui passe très vite, qui est la maman de la petite Louise, qui est une femme qui a perdu l'essentiel de ses hommes, son frère, son mari, à la guerre de 14, et qui passe son temps à regarder par la fenêtre. C'est une traumatisée de guerre. Sa fille est également une traumatisée de guerre. Elle a 10 ans, c'est une enfant très silencieuse. Sa mère est mutique et elle est muette. Et donc, d'une certaine manière, ces deux femmes se ressemblent. Elles sont chacune à une extrémité de leur génération, puisque l'une est la fille de l'autre. Mais d'une certaine manière, chacune à sa manière, chacune à sa façon de vivre le trauma comme étant une épreuve du silence. Et il y a une troisième femme qui est la sœur d'Edouard, qui s'appelle Madeleine, qui, elle, est une fille de banquier et qui, elle, est très inspirée d'un personnage de Tolstoï que j'aime beaucoup, qui est la princesse Marie Bolkonski. Et elle, c'est une femme qui est une femme de pouvoir. Ce que c'est d'être une femme de pouvoir en 1920, c'est n'avoir aucun pouvoir et être femme quand même. Et donc, au fond, j'essaye avec ce petit panorama de trois femmes de montrer Une chose qui me semble vraiment très importante, c'est que les femmes ont payé un tribut extraordinairement lourd à cette guerre. Et donc, il y a trois femmes vivantes qui sont trois femmes blessées. L'une a perdu son frère, l'autre a perdu son père et l'autre a perdu toute sa vie. Et donc, au fond, trois femmes qui sont trois grandes traumatisées de guerre et qui vont tenter de tirer chacune leur épingle du jeu dans un contexte où la place des femmes est comptée vraiment... très sévère. C'est un jugement difficile qu'on a apporté sur cette période-là. Les femmes ont eu beaucoup de mal à vivre alors qu'elles ont fait l'essentiel du travail.
On dit que vous vous attelez à une fresque du XXe siècle. Quels sont vos projets? Vous sentez-vous balzacien ou proustien?
Est-ce que je suis balzacien ou proustien? Franchement, l'un ou l'autre me ravirait. J'adorerais être proustien, j'adorerais être balzacien. Bon, ce que je fais doit être un petit peu quand même appelé à la modestie et la fréquentation de ces grands maîtres me flatte un peu, mais enfin, elle n'est pas très juste. Ce qui est juste malgré tout dans le rapprochement que vous proposez là, c'est que j'ai quelque chose de commun avec Balzac, alors toute référence gardée, j'espère que là aussi, les gens qui nous écoutent entendront les guillemets, avec beaucoup de modestie, il y a quelque chose que j'emprunte à Balzac, qui est dit d'une fresque sur le siècle, et qui ressemblerait plutôt à la comédie humaine qu'au Rougon-Macquart. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une saga avec une suite de générations, on est dans un ensemble de livres qui, dans leur ensemble, créent, comme les pièces d'un puzzle, une petite fresque modeste de ce qu'a été le XXe siècle. Pour ce qui est proustien, c'est évidemment la référence qui me ferait le plus plaisir, mais de fait, je ne me sens pas trop de me colter à mes maîtres. Je les respecte, ils m'inspirent, et je les respecte de loin.
Vous venez de faire une lecture magistrale d'Au revoir là-haut. Nous savons que ce projet vous tenait très à cœur. Vous y avez consacré beaucoup de temps et beaucoup de vous-même. Pouvez-vous nous dire d'abord ce que vous avez éprouvé, tiré de cette expérience, et ce que signifie pour vous la lecture à haute voix?
Je voulais absolument lire ce livre et je me suis bagarré avec mes armes pour obtenir la confiance de ceux qui le produisaient. Alors, ils m'ont fait l'amitié et la confiance de me confier cette tâche, ce dont je les remercie beaucoup. Et j'y tenais pour deux raisons. La première, c'est que c'est parce que c'est écrit pour ça. Le lecteur entendra de temps en temps l'irruption d'un « je » dont il va se demander longtemps qui il est. C'est l'auteur. C'est-à-dire, je ne veux pas être prétentieux et faire des références culturelles, mais enfin, il y a dans Jacobson une explication linguistique sur ce qu'il appelle la fonction fatique. C'est-à-dire le moment dans le récit où des mots sont prononcés, non pas pour ce qu'ils veulent dire, mais uniquement pour maintenir un contact entre celui qui parle et celui qui écoute. Et j'ai écrit ce livre, je l'ai conçu et je l'ai écrit tout du long, de la première à la dernière page, pour donner l'illusion au lecteur qu'on lui lisait l'histoire à voix haute. Et donc, la meilleure manière de donner cette illusion quand on est purement sur le papier, c'est de temps en temps de faire des incursions dans le récit en disant « je vous l'avais dit » ou « vous voyez bien, nous pensons la même chose ». Et cette espèce de connivence que j'essaie d'installer dans le style, au fond, elle trouvait son application dans l'enregistrement le jour où il m'a été proposé de faire lire ce livre, de le proposer en un livre lu. L'idée de le lire moi-même était tellement plaisante que franchement, j'ai pas pu y résister. Et donc, j'ai beaucoup milité et je remercie vraiment à la fois le sort et les producteurs de m'avoir fait cette confiance.
Qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous avez été surpris par des moments du texte où vous le connaissiez tellement bien que vous avez eu juste à cœur de le rendre? Enfin, comment vous avez traversé cette...
Alors, j'ai traversé, franchement, j'ai traversé cette épreuve d'enregistrement avec un bonheur absolument intense. C'est que je disais adieu au texte. C'est-à-dire que vous avez vécu avec un texte qui vous a tout apporté. Vous apportez un lectorat, et vous apportez le prix le plus prestigieux de la littérature française. Il vient dans votre travail porter à son acmé ce que vous savez faire de mieux. D'une certaine manière, c'est un objet encombrant. Et le fait de le lire page après page, chapitre après chapitre, paragraphe après paragraphe, c'était une manière de dire adieu à ce texte, parce que pour qu'un écrivain continue d'exister, il faut qu'ils disent adieu aux textes qui l'ont porté, qui l'ont fait, pour continuer de faire son travail. Et donc, j'ai adoré ces dizaines d'heures d'enregistrement où, page après page, je me disais, tiens, ça c'est bien. Et puis, de temps en temps, ça c'est trop long, ça c'est dommage, ça je le referai. Sauf que le livre est ainsi fait. Il est ainsi, je l'offre au lecteur avec modestie et plaisir, et j'espère générosité. Et d'une certaine manière, les producteurs de ce livre lu m'ont donné l'occasion de dire au revoir à mon texte, et je l'en suis très reconnaissant.
Bien, merci beaucoup Pierre Lemaître.
Merci à vous.